Inter, le 18-20.
Le 18-20 avec une nouvelle édition spéciale toujours consacrée à l'analyse du premier tour de la présidentielle. Jusqu'à 19h, on va faire de la géographie électorale et c'est passionnant. À quoi ressemble la France qui a voté dimanche dernier? Quels sont les grands clivages territoriaux? Quelles parties du pays, historiquement marquées à gauche ou à droite, ont basculé dans un autre sens? Pourquoi les grandes villes votent-elles si différemment du reste du pays? On va explorer toutes ces questions avec vous. Amis auditeurs, le standard est ouvert. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Au micro de France Inter, Hervé Lebras, bonsoir.
Bonsoir.
Démographe, directeur d'études à l'EHESS. Jean-François Dorido, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général d'Ipsos Public Affairs. Vous avez publié une enquête intitulée « La sociologie des électorats et les profils des abstentionnistes du premier tour de l'élection présidentielle ». Alors, pour prendre une image, je vais m'appuyer sur celle du Monde à la une hier soir, Hervé Lebras, le Monde qui publiait une carte de France et qui a été carte de France donc du vote hein, après le premier tour de la présidentielle qui a été immédiatement parodiée sur internet. À la place des couleurs à la une du Monde, on avait un Jackson Pollock, c'est-à-dire une toile faite de giclées de peinture, très belle hein, c'est magnifique Jackson Pollock, mais ça donnait aussi une idée de ce à quoi pouvait ressembler la France après le premier tour. Est-ce que si on regarde justement cette carte électorale vue du ciel, tout a été chamboulé ou pas, Hervé Lebras?
Je vais répondre sur le fond, mais d'abord sur cette question de carte, je vais au fond défendre peut-être une façon de faire que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire il faut que les cartes aient un sens. Mmh. Et donc les cartes on enverra dans le Monde qui paraîtra demain, on en verra trois, elles sont lissées, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on cherche à supprimer ce qui est le hasard ou supprimer les petites choses. Alors bien sûr, on ne voit pas tel village ou tout, mais on voit les grandes lignes. Et là, je suis d'accord avec vous, on ne les voyait pas, ou alors il fallait cligner des yeux, mais cligner des yeux, c'est faire un lissage. Et oui. Du coup, quelles sont ces grandes lignes? En fait, il y a d'abord une première grande ligne, qui est la plus grande, et pour laquelle il n'y a pas grand changement, c'est le Front National contre... au fond, tout ce qu'il y a de la gauche ou un peu de gauche, c'est-à-dire la carte de Mélenchon, qui est très proche de celle de Hamon. Là, c'est c'est le socialisme traditionnel, c'est-à-dire traditionnel, enfin récent aussi, c'est-à-dire la Bretagne, une partie de... et puis un grand sud-ouest, sauf une partie massive centrale. Et les deux sont vraiment très proches, ce qui explique d'ailleurs les reversements qu'il y a eu entre les deux pendant, au fond, deux mois. Et puis ensuite, la carte de Macron elle-même, elle est vraiment quelque part le contraire de la carte du Front National. Et puis cette carte du Front National qui, alors, elle, est stable depuis pratiquement son apparition en 1984 aux Européennes, avec un vote très fort au nord d'une ligne, disons, le Havre-Belfort, et puis tout un gros rivage méditerranéen en remontant jusqu'au Vaucluse et le haut du Gard, et puis la vallée moyenne de la Garonne. Et ça n'a pas bougé. Alors il y a des petits mouvements, mais il faut les regarder de près. L'Alsace est un peu moins...
Ouais. Enfin, on va les regarder, mais on va rentrer dans le détail. On a du temps et c'est un sujet absolument passionnant. Une question supplémentaire, Hervé Lebras, avant de donner la parole à Jean-François Dorido. On a dit que le vrai clivage territorial de ce premier tour, quand on regarde les votes pour Emmanuel Macron et les votes pour Marine Le Pen, c'est Est-Ouest. C'est une qui partage la France d'est en ouest.
Non, c'est plutôt le clivage que j'ai indiqué. C'est pas d'est en ouest, c'est vraiment au sud d'une ligne.
Regardez là, j'ai la carte de la Croix sous les yeux.
Mais regardez bien, vous voyez que vous avez cette ligne qui est nord-ouest-sud-est, qui est en diagonale, et puis vous avez surtout la Méditerranée. Ça, c'est la carte du vote du Front National. Et puis ce que vous avez en couleurs différentes cette fois et pas en pot de peinture, c'est la carte de ce qui vote peu Front National. Mais l'autre différence, et on y reviendra sans doute dans la suite, et vous y avez fait allusion, c'est selon la dimension des communes, plus une commune est grande, moins elle vote pour le Front National et plus elle vote pour Macron, et les écarts sont énormes.
Jean-François Dorido, quelle lecture de cette carte électorale ?
Ben, finalement, quand on regarde dans notre enquête, les clivages sont toujours permanents sur le sexe, sur l'âge, sur les professions, même s'ils ont tendance à s'atténuer par rapport à la présidentielle dernière, mais les hommes votent davantage Front National et ont davantage voté pour Jean-Luc Mélenchon que les femmes. Mais le critère qui est devenu de plus en plus clivant dans cette élection et qui regroupe la géographie, c'est la vision de l'avenir et la situation financière. Il y a des contrastes énormes selon le niveau de revenu des gens et selon le fait qu'ils se projettent et qu'ils se projettent pour leurs enfants sur le fait qu'ils ont le sentiment d'être dans une profession qui est stable ou qui est en déclin ou qu'ils ont l'impression que la génération future vivra mieux ou vivra moins bien. Et là, quand on regroupe même, c'est une opposition très forte entre Macron évidemment et Marine Le Pen, mais quand on regroupe l'électorat de Macron et de Fillon d'un côté et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen de l'autre côté, c'est incroyable. Ces deux blocs qui finalement ont fait l'un 44% pour Macron, pour Mélenchon et Marine Le Pen 41%, qui sont à peu près stables, mais quand on regarde chez les faibles revenus, on est à 60% qui ont voté soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen, et c'est l'inverse chez les hauts revenus, où plus de 60% ont voté soit pour Emmanuel Macron, soit pour François Fillon. C'est devenu le vrai clivage qui s'est renforcé dans la société française.
Vous voulez dire un mot là-dessus, Hervé Le Braz ?
Oui, mais le clivage social, si on peut dire, recoupe aussi un clivage géographique. Les régions dans lesquelles le Front National fait ses meilleurs scores sont presque toutes des régions où les choses vont moins bien qu'ailleurs, où le chômage est plus élevé, où il y a plus de jeunes sans diplôme, où les inégalités locales sont plus importantes, le taux de pauvreté, enfin on peut multiplier, il y a hélas, de ce point de vue-là, deux France, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, l'une d'entre elles, bien sûr, a peu d'espoir, mais elle a peu d'espoir parce qu'autour d'elle, il y a peu d'espoir. C'est donc, au fond, un effet d'environnement des personnes. Elle voit autour d'elle, quand vous avez un taux de chômage à 5%, vous avez peu de probabilité qu'il y ait quelqu'un dans votre famille proche qui soit au chômage. Quand vous avez un taux de chômage à 15%, vous avez une grosse probabilité qu'un très proche soit lui-même au chômage. Mmh. Ça change votre vision de la vie.
Expliquez-nous, Hervé Le Braz, le vote des grandes villes. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se joue en ville? On a pu voir encore une fois que les villes votaient différemment. Par exemple, quand on prend Paris, c'est absolument stupéfiant. Marine Le Pen ne fait même pas 5% à Paris. Qu'est-ce qui se joue en ville d'un point de vue géographique pour que, géographique, économique, j'imagine, hein, aussi, pour que le vote soit à ce point spécifique?
Le paradoxe, c'est que quand on regarde les indicateurs dont j'ai parlé, ils sont plutôt plus mauvais en grande ville, dans les grandes villes, que dans le rural profond. Les taux de chômage sont plus élevés, les inégalités sont plus grandes, la pauvreté est plus grande, il y a beaucoup plus d'écart, mais il y a aussi, et on revient sur ces questions d'espoir, dans la grande ville, il y a des opportunités. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est pauvre sent qu'il peut avoir l'occasion. Si vous êtes pauvre et au chômage dans un village assez éloigné, c'est pas les mêmes perspectives. Donc il y a cet aspect-là d'avoir au fond des perspectives. Et puis il y a un autre aspect, et là je crois que c'est la question au fond européenne et internationale qui est sous-jacente. C'est-à-dire que dans les grandes villes maintenant, le contact avec le reste du monde est important. Les personnes qui ont circulé particulièrement en Europe, vous avez dans les grandes villes beaucoup d'étudiants, donc vous avez aussi beaucoup d'Erasmus. Donc quelque part, je crois qu'il y a un sentiment dans les grandes villes d'appartenir à un monde plus large que le pays. Et donc, il y a à la fois un optimisme et à la fois une méfiance pour ceux, envers ceux qui prônent une fermeture des frontières, une sortie de l'Europe. Il y a vraiment un effet de situation qui joue pour ce sentiment.
Et avez-vous été étonné, ou alors absolument pas, ça n'a fait que confirmer la règle, en voyant les grandes villes françaises, la manière dont elles avaient voté, Hervé Le Braz, ou pas?
Il y a un point quand même qu'on avait, au fond, qui était pas prévisible, c'est par exemple que le vote du Front National, bien qu'il soit plus élevé, le vote est à peu près, quoi, ça fait 3 points de plus que en 2012. Il a baissé dans un certain nombre de grandes villes. Donc là, le phénomène est plus violent que je l'aurais imaginé. Il faut se souvenir que quand le vote du Front National apparaît en 1984, c'est un peu l'inverse. Il est centre-ville. C'est un vote urbain. C'est un vote, par exemple, à Paris, l'arrondissement qui a le plus fort vote FN en 1984, c'est le 8e arrondissement. Vous diriez pas ça maintenant?
Non, c'est contre-intuitif, effectivement, aujourd'hui. Sur les grandes villes, Jean-François Dorido et leur sociologie, que dit votre étude de l'Ipsos?
Les grandes villes, on recoupe, même s'il y a des indicateurs économiques qui sont pas toujours en effet fantastiques, on retrouve un taux de cadre plus important, on retrouve souvent aussi un taux de retraités plus important dans un certain nombre de grandes villes où il est difficile, où le prix de l'immobilier fait qu'il est difficile pour les jeunes d'accéder à la propriété. Et quand on regarde sociologiquement là où a progressé Marine Le Pen, 3,5 en effet de plus par rapport à 2012. Elle a renforcé son score auprès des populations ouvrières, elle a élargi son socle auprès des employés, mais la limite de sa progression, elle se fait auprès des plus de 60 ans et surtout auprès des retraités où, d'après notre enquête en tout cas, elle est à 14% des votes, exactement le même score qu'en 2012, alors qu'elle a progressé de plus de 7 ou 8 points chez les autres populations.
Allez, on va se diriger vers le Standard de France Inter. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Saint-Ouen et nous vous écoutons.
Oui, même s'il a placé Jean-Luc Mélenchon en tête, le département de la Seine-Saint-Denis est celui où je vis, est celui où l'on vote le moins de France. Il y a un taux d'abstention à chaque élection qui est dramatique. C'est aussi celui qui aurait le plus à souffrir de l'élection de Marine Le Pen du fait de sa diversité ethnique et culturelle, comme c'est les termes qui conviennent. Et pourquoi on n'arrive pas à faire voter les gens de Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce qui explique que les gens de Seine-Saint-Denis, qui s'appellent Mohamed ou Jean-Pierre, ne vont pas voter? Et c'est quand même dramatique. Et là, même s'ils ont voté majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs j'ai même pas voté pour lui, on ne va pas voter en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi les gens ne se lèvent pas le dimanche pour aller voter entre 8h et midi? Entre 8h et 8h, c'est dramatique.
Restez en ligne, Benjamin, on va soumettre cette question à Hervé Le Braz.
Oui, c'est une question délicate. Je pense déjà que dans la campagne, ce qu'on appelle justement la diversité a été assez peu représentée. Les problèmes de cette diversité ont été relativement peu posés, peu présents. On a quand même eu une campagne très franco-française. Je crois que c'est aussi lié au fait qu'il y a une sorte de peur d'aller sur des terrains comme le terrain de l'immigration, le terrain des réfugiés. Et donc on a senti, même chez les candidats qui sont plutôt ouverts et les candidats qui ont été au gouvernement avant ou après, on a senti une assez grande retenue. Donc je crois que l'exemple qui est donné pour la Seine-Saint-Denis fait qu'il y a un manque d'intérêt. J'ajouterais qu'il y a une autre chose qui est particulière dans justement les grandes villes, c'est que au fond, de plus en plus, on a un sentiment que les choses se jouent peut-être plus entre grandes villes du monde entier qu'entre nations eux-mêmes.
Oui, qu'entre la ville et la périphérie.
Exactement.
Elle-même. Jean-François Dorido, sur la Seine-Saint-Denis.
Sur la Seine-Saint-Denis, on retrouve sur la participation, il n'y a pas eu de très grands bouleversements lors de cette élection, puisqu'on a eu une mobilisation dans les 15 derniers jours qui fait que finalement on est arrivé à un niveau de participation assez comparable à il y a 5 ans, avec toujours les mêmes catégories qui votent moins, c'est-à-dire les jeunes et les ouvriers et les personnes à faible revenu. Et quand vous regardez la composition du département de la Seine-Saint-Denis, c'est des populations qui sont un peu plus représentées que dans d'autres départements. C'est un département qui est assez jeune et ça s'explique aussi par cela, pas que pour cela, parce que cela induit en effet des problèmes sur la diversité, sur les questions à résoudre pour ces populations, mais c'est ce qui explique que la Seine-Saint-Denis n'est pas, même si ça vote Jean-Luc Mélenchon, n'est pas un département qui vote énormément.
Benjamin, vous êtes toujours là, vous vouliez redire un mot?
Oui, je voulais voudrais dire un mot, parce que M. Le Bras dit que on n'a pas impliqué les thèmes de l'immigration ou de la diversité ethnique. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, on en a parlé. Et c'est surtout qu'à chaque élection, les élections municipales ou les élections régionales il y a 2 ans, c'était une catastrophe. C'est 40% de gens qui sont allés voter. À chaque fois, en Seine-Saint-Denis, on ne va pas voter. Et ça, il y a un problème électoral et un problème des élus qui sont là, qui ne mobilisent pas, sinon par une forme de clientélisme, et qui n'y arrivent pas davantage. Quand Clémentine Autain va dans le café où France 2 a fait un reportage pour dire que les femmes n'ont pas le droit de citer dans ce café, et elle y va en disant « c'est formidable, les femmes ont le droit d'y aller », c'est juste un clientélisme odieux qui ne mène à rien, parce que les gens à Tremblay en France ne sont pas allés voter. Mmh. Et il n'y a pas de gens qui se mobilisent pour aller voter, et c'est dramatique.
Il n'y a pas, Benjamin, d'association qui se réveille, entre guillemets, au moment de l'élection pour favoriser déjà l'inscription sur les listes électorales, puis continuer à faire un travail vers le bureau de vote tout au long de la campagne?
Si, il y a toujours des associations comme ça, on en voit. Sauf qu'elles se réveillent effectivement peu de temps avant. Elles incitent les gens à aller voter, mais le travail au long cours et puis n'est pas fait. Et puis au final, les gens ne vont pas voter. L'implication des corps intermédiaires ne se fait pas. L'implication des élus, les municipalités vous invitent à aller voter. Maintenant, on est inscrit d'office sur les listes électorales. Ça ne change rien. C'est qu'il y a un travail qui n'est pas fait. C'est juste un constat. Il y a un travail qui n'est pas fait de la part des municipalités, de la part des députés. Et en même temps, quand on a un député comme Bruno Leroux, qui n'est pas d'une exemplarité extraordinaire, qu'est-ce que vous voulez derrière? Que les gens aient voté pour des types... Voilà, quand il y a 15% de chômeurs en Seine-Saint-Denis et qui salarient ses filles, on peut quand même s'interroger sur la motivation des électeurs à aller voter pour des élus derrière.
Une dernière question, j'imagine, Benjamin, que vous en parlez avec vos proches, vos amis, vos connaissances. Vous rencontrez beaucoup de gens qui vous disent très clairement qu'ils n'iront pas voter, que le vote n'est pas fait pour eux, ou alors qu'ils veulent s'abstenir et que bon voilà, l'élection ne les regarde pas.
Et qu'ils se sentent plus impliqués, ils ne sont plus intéressés, ou si tant est qu'ils ne l'aient jamais été. Et ça se voit aussi bien aux élections municipales qu'aux élections législatives, qu'à l'élection présidentielle, dans des proportions différentes. Parce qu'en plus, il y a une incarnation à l'élection présidentielle qu'on n'a pas aux régionales ou aux européennes. Quand on explose le scrutin en 5 grands départements, comment 5 grandes régions pour les européennes, comment voulez-vous que des gens qui sont déjà totalement déclassés dans le département où ils habitent aillent voter pour un truc qui les semble plus encore éloignés?
Merci beaucoup, Benjamin, d'être intervenu ce soir sur France Inter. Jean-François Dorido, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, et quand on demande aux gens la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle ils ne vont pas voter, ils nous disent que c'est une raison qui est structurelle, qui est la défiance vis-à-vis du politique et le fait qu'ils se sentent délaissés et que le politique ne répond pas à leurs questions. Et là, dans l'illustration qui a été donnée par l'auditeur, on le comprend. Je veux dire, ces habitants de Seine-Saint-Denis ont l'impression que leurs problématiques, leurs problèmes ne sont pas au centre de la campagne, et tout cela se rejoint avec la sociologie de ce département.
Hervé Le Bras, encore un mot?
Oui, en même temps, l'exemple de, c'est pas pour défendre l'exemple de Bruno Leroux, mais après tout, l'exemple de François Fillon n'a pas empêché d'aller voter dans la Sarthe, donc il faut se méfier peut-être des rapprochements locaux.
Allez, on retourne au standard. Je salue Claire qui nous appelle de La Réunion. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Mais je vous en prie.
Moi j'habite La Réunion depuis un peu plus de 30 ans. J'ai toujours voté. J'ai eu les premiers votes Front National dans les années 90 avec 2 à 3% pour Monsieur Le Pen. Déjà ça me scandalisait parce que je comprenais pas qu'à La Réunion on puisse voter Front National alors qu'à La Réunion on vit tous en bonne communauté et il n'y a pas de vrai problème particulier de racisme ou quoi que ce soit. Et justement, il n'y a pas de problème d'immigration non plus, parce qu'il y a quelques Comoriens qui viennent au travers par Mayotte, etc., mais vraiment pas grand monde, donc il ne devrait pas y avoir... Et Marine Le Pen là, est arrivée quand même dans ma ville, elle est arrivée à 28,7%. Monsieur Mélenchon était légèrement devant. Et dans mon bureau de vote, quand je me suis aperçue que... Enfin, j'ai une amie qui dépouillait, qui avait 120 votes pour Mélenchon et 110 pour Le Pen, je me suis dit que Mélenchon ne serait certainement pas en tête en métropole, parce qu'en général, à La Réunion, on vote à l'inverse de la métropole. Mais il n'empêche que, sur la moyenne régionale, Marine Le Pen fait quand même quelque chose comme 27-26% des voix, et M. Mélenchon 27 ou 24-25, quoi. C'est énorme. Et je comprends pas, voilà.
Eh bien, oui, dites.
Lebrun, je me suis dit peut-être c'est le chômage, mais nous on vit sous perfusion de l'Europe à La Réunion, donc je vois pas pourquoi on irait d'un seul coup quitter l'Europe et pourquoi. Voilà quoi. Donc je comprends pas bien.
Eh bien, merci Claire d'être intervenue. Restez en ligne si vous le souhaitez, Hervé Lebrun, alors sur La Réunion.
Non, c'est intéressant parce que Madame a raison. Il se trouve qu'une fois j'ai été à La Réunion, à la demande de Paul Vergès, et Paul Vergès, qui était le président du Conseil Général, avait dit « Nous sommes dans une société post-ethnique ». Donc justement, on a l'impression, bien sûr, il y a des communautés qui sont très typées à La Réunion, mais il y a un équilibre entre elles qui est tout à fait intéressant. Et ça se montre que quelque part, justement, le vote pour le Front National, qui est souvent présenté uniquement, et qui se présente d'ailleurs lui-même, sous l'angle de la xénophobie, répond en fait à des préoccupations plus vastes, à celles que vous avez soulignées sur l'inquiétude sur l'avenir, sur l'absence de perspective, et La Réunion est tout à fait dans cette situation. Alors en plus de ça, c'est très difficile de faire le parallèle entre les situations des départements d'outre-mer et la situation en métropole. C'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes, au fond, rapports de force en présence. Je dirais que c'est déjà vrai, c'est déjà difficile pour la Corse de s'inspirer du modèle au fond continental ou du modèle.
Selon les chiffres, j'ai les cartes de la Croix datées d'aujourd'hui. La Guadeloupe a placé Emmanuel Macron en tête. Martinique, Guyane, Réunion ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête. Mayotte a placé François Fillon en tête. Sur La Réunion, vous voulez dire un mot, Jean-François Dorido ?
Encore, là aussi, ça a du sens, je trouve, de regarder le score de Jean-Luc Mélenchon. Plus celui de Marine Le Pen, qui prouve tout de même, même si les Réunionnais savent, qui dépendent de l'Europe, qu'il y a une inquiétude. Qu'il y a une inquiétude vis-à-vis quand même des territoires autour, mais qu'il y a aussi une inquiétude sur le fait d'avoir le sentiment, qu'il soit juste ou injuste, d'être un peu délaissé par la métropole. Et c'est un vote de défiance, c'est pas un vote, en effet, Marine Le Pen, de xénophobie, où c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de tension entre les communautés à La Réunion, mais plus un sentiment d'être un peu laissé en dehors du chemin par la métropole.
Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, moi je ne suis pas un spécialiste de la vie politique, ni un commentateur. Moi,
Vous êtes citoyen, ouais, donc vous avez absolument tous les pouvoirs.
Et je me suis permis de parce que moi je soutiens Jean-Luc Mélenchon, donc les Insoumis, donc sur Anthony, et je me suis permis de regarder avec un peu plus de détails les résultats sur le site du ministère de l'Intérieur, au niveau notamment de ma région d'origine, du Nord, qui est une région emblématique, puisque le FN arrive en premier loin de là, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas aussi simple que ça, parce que j'ai fait un focus sur Dunkerque, qui est quand même assez médiatisé. Dunkerque, le Front National arrive en premier, comme dans le reste du Nord, mais par contre, il y a une ville juste à côté dont on a parlé dans l'actualité, où il y avait justement des soucis avec un camp de réfugiés qui était une annexe de Calais, qui s'appelle Grande Sainte. Et là, Jean-Luc Mélenchon, est ton premier, et la grande différence entre, par exemple, Grande Sainte à côté de Dunkerque et Dunkerque, ou le Pas-de-Calais, c'est que j'ai remarqué que dans les zones, en région parisienne, c'est pareil, où il y a plus d'ouvriers français d'origine immigrée, par exemple Villejuif, Vitry-sur-Seine à côté, où c'est Macron qui l'emporte dans Val-de-Marne, il y a un vote, je dirais, massif des ouvriers, des employés français issus de l'immigration pour Jean-Luc Mélenchon, et qu'en fait, le vote Le Pen, il correspond plutôt à un sentiment de déclassement d'ouvriers, comme dans le Pas-de-Calais, qui sont peut-être au chômage depuis deux générations, comme dans le bassin Ansois notamment, ou à Dunkerque, où il ne se passe absolument rien, où c'est une ville qui est en train d'être abandonnée, alors que c'était un front industriel avec... dans les années 80, où il y avait même des gens de Paris qui venaient y travailler, puisque c'est un Eldorado. Voilà, c'est un peu l'observation que j'ai faite, et je pense qu'à mon avis, Je pense que les Français d'origine arrière d'immigration, même s'ils ont subi beaucoup, même s'ils ont un sentiment d'avoir subi de la discrimination ou autre, bah, dans les régions où ils arrivent encore à travailler, où il y a même s'ils ont des boulots pénibles, etc., je pense qu'ils sont plus ouverts que les Français de souche qui ont été déclassés et qui sont totalement, je dirais, qui votent Le Pen, parce qu'en fait, ils ont le sentiment d'être abandonnés par tout le monde. Voilà, c'était la réflexion que...
Écoutez, vous dites que vous n'êtes pas spécialiste de la politique, Hervé, vous avez un œil sacrément aiguisé, quand même, hein, et vous allez à la source pour étayer vos analyses, à la source, donc, des chiffres publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. Hervé Le Braz, Dunkerque, disait Hervé.
Oui, donc c'est... déjà, les enquêtes montraient qu'en 2012, la seconde génération avait voté à gauche à 60, je crois que c'était au moins 75%. Et il y a une certaine logique parce que, disons que le discours sur la religion musulmane, sur les Arabes, sur l'immigration, n'est pas fait beaucoup pour tenter les gens qui sont issus de l'immigration. Et je dirais qu'il y a aussi un autre facteur auquel on pense moins, qui est un peu un facteur terrible. C'est que quand vous font l'immigration, c'est un mouvement vers quelque chose de meilleur. L'immigration est sélective. C'est plutôt des gens plus audacieux ou maintenant, par exemple, ceux qui arrivent en France sont maintenant plus diplômés que la moyenne des Français. En revanche, au fond, le prolétariat français, c'est un prolétariat, c'est ceux qui sont restés sur place. C'est bien, certains sont tout à fait contents de leur situation, mais c'est quand même pas la même dynamique des deux côtés. Et du coup, je trouve assez intéressant que la coupure se fasse entre, d'un côté, le vote pour Mélenchon, qui cette fois-là me paraît plus dynamique, et de l'autre côté, pour Marine Le Pen, qui est plus un vote de fermeture.
Jean-François de Rideau.
Le vote Mélenchon, il a rencontré quand même l'exaspération d'une partie de l'électorat traditionnel de gauche après le quinquennat de François Hollande, et qui a eu du mal à voter Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon était quand même le candidat du Parti Socialiste. Et cet électorat, au fur et à mesure de la campagne, il s'est rangé derrière Jean-Luc Mélenchon en ayant le sentiment à la fois de répondre à une problématique de gauche et avec un discours quand même d'alternance, d'incarnation du changement, avec le fameux dégagisme. Donc c'est assez logique de retrouver cet électorat populaire de gauche. C'est pas le seul électorat de la gauche, pas l'électorat cadre qui lui s'est retrouvé sur Macron. Finalement, on a eu une fin de campagne, une fois que Benoît Hamon a chuté dans les sondages, où c'était très clair. On avait vraiment les deux gauches qui étaient incarnées à la fois par Macron et par Mélenchon. Donc on le retrouve dans la géographie électorale avec toutes ces villes traditionnelles de gauche populaires qui ont voté en masse pour Jean-Luc Mélenchon.
Je salue Magid au Standard d'Inter. Bienvenue.
Oui, bonjour à tous, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
En fait, moi j'ai toujours vécu en ville depuis l'âge de 5 ans, en fait, à Paris notamment, et avec mes copains on disait, à Paris on est tranquille, les gens votent pas Front National. Et depuis maintenant 3-4 ans, je vis dans une petite commune du Tarn, en plus qui était concernée par, vous savez, à l'époque, le barrage de Sivens, la zone de testé. Et je me disais que forcément, ça allait voter Front National. Et à ma grande stupéfaction, et j'en suis assez fier, en fait, la ville a voté majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, depuis deux jours, on essaie de comprendre comment ça se fait et tout. Et au final, on se rend compte que c'est une ville où il y a plein de structures, d'associations, de collectifs qui se bougent, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je me dis qu'on peut pas tenter d'expliquer la carte géographique, en fait, du Front National et du vote du Front National sans y accoler tout de suite après, en fait, la carte de la diversité culturelle, de la mixité sociale, du lien social, des services publics, en fait. Et deuxième chose, je voulais vous parler d'une carte, parce que vous parlez de la carte du FN, c'est la carte d'un mouvement citoyen qui s'appelle Jour Debout, en fait. Dans toute la France, il y a un appel à rassemblement à chaque jour d'élection pour aussi dénoncer le système politique dans lequel on vit. Parce qu'au final, l'abstention, depuis deux jours maintenant, tout le monde crie au loup en disant que s'abstenir, c'est permettre au Front National de passer. Mais au-delà de la problématique du Front National, c'est le système politique en lui-même et cette représentativité qui n'en est plus, que les gens veulent remettre en question. Donc voilà, on parle de la carte du FN, mais aussi la carte du découragement et désaveu complet, en fait, des Français vis-à-vis des classes politiques, quoi.
Merci, voilà. Magid, pour votre intervention. Hervé Le Braz.
Je pense que cette intervention, d'ailleurs, rejoint une autre, est très intéressante et elle pose une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais il y a un constat et je vais revenir à la carte du monde. Eh bien, si on regarde bien cette carte du monde, par commune, on peut faire ce constat. C'est-à-dire qu'on voit que, particulièrement dans le sud de la France, les zones qui ont le plus voté pour le FN, qui sont proches de la Méditerranée, juste après, au fond, entre les zones qui par contre ont voté plutôt pour Macron, entre les deux, il y a une sorte de frontière qui est en rouge sur la carte du monde. C'est là où Mélenchon est arrivé en tête. Et on a la même chose, alors à très petite échelle, on l'a dit pour Saint-Denis en région parisienne, mais autour d'un certain nombre de villes, on a aussi le même phénomène. Donc il y a quelque chose à comprendre dans, au fond, ce vote Mélenchon qui est justement... qui échappe à l'opposition rurale profonde, périphérique, et puis centre-ville, qui échappe aussi à l'opposition zone FN dure, ou bien zone plutôt centriste, disons, puisque Mélenchon est puisque Macron est centriste. Et là, entre les deux, il y a un phénomène intéressant, dont tant que maintenant, c'est 19%, et je ne pense pas qu'il soit complètement analysé du point de vue géographique.
Un mot, Jean-François Dorido.
On a eu la chance durant toute cette campagne de travailler avec le Cevipof sur un panel de taille et qui est un vrai panel, c'est-à-dire qu'on réinterrogeait les mêmes personnes au fur et à mesure de la campagne et donc on pouvait voir leur évolution d'intention de vote et dans la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, elle s'est faite évidemment avant tout au détriment de Benoît Hamon et même d'Emmanuel Macron, mais on a constaté dans le dernier mois des transferts entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire une partie d'électeurs qui passent du Front National à la France Insoumise, pas sur évidemment sur des valeurs, c'est-à-dire que c'est une partie de l'électorat du Front National qui pour qui les problématiques d'immigration ou de terrorisme ne sont pas les premières motivations de vote. C'est une partie de l'électorat du Front National qui est plus sur le problème du déclassement, sur le problème d'un certain dégoût vis-à-vis de la classe politique et qui s'est retrouvé là-dessus dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est toujours difficile à dire parce que interprété comme c'est la même chose et puis il y a des histoires avec des bulldozers dans les années 70 ou 80, mais en fait il y a des liens entre les deux qui se font auprès des catégories les plus populaires.
Vous voulez rajouter un mot, Hervé Le Braz ?
Non, je suis d'accord. Enfin, juste on peut dire pour le souligner que dans les enquêtes, au fond, plus simples, plus classiques, où on demande pour qui aviez-vous voté au présidentiel de 2012, on voit qu'il y a effectivement quand même très peu de transferts entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, il peut y avoir des similitudes sur certains points de programme, mais les électorats sont vraiment des électorats qui sont très différents. D'ailleurs, plus grossièrement, la carte du vote Mélenchon, c'est la carte du vote Mélenchon il y a 5 ans, mais aussi c'est la carte... du vote pour Hollande il y a 5 ans. On est dans le monde, on reste quand même dans le monde socialiste malgré les noms d'oiseaux qu'ils se jettent parfois à la figure.
Il reste une géographie de
absolument,
gauche
absolument.
Qui ne bouge pas, je dirais, qu'importe le nom de celui qui l'incarne élection après élection.
Oui, on en avait une autre preuve, c'était au cantonal. On voyait qu'au second tour, quel que soit le candidat de gauche qui restait en lice, il pouvait être à la gauche de la gauche, il pouvait être communiste d'ailleurs dans certains cas, écologiste ou bien social-démocrate, l'ensemble de la gauche, il n'y avait pas de perte, là, la gauche se reportait. Donc au fond, les querelles d'appareil sont beaucoup moins visibles et à mon avis sont beaucoup moins nettes même au niveau de l'électorat.
Est-ce que la carte du vote Emmanuel Macron se superpose parfaitement ou pas avec la carte du vote de gauche en France ?
Non, parce que y a la carte du vote Macron, pour moitié, comprend le vote Bayrou. On l'oublie. Or, le vote Bayrou, c'est le vote démocrate chrétien. Disons, c'est la carte hyper ancienne des régions... où le catholicisme était plus répandu. Donc c'est pas là du tout la carte de la gauche, mais il se trouve qu'il y a la conjonction des deux. Et quand on met les deux ensemble, on voit apparaître une carte. Bon, comme j'ai fait beaucoup de cartes dans ma vie, ça me rappelle des choses. Et la carte du vote Macron, assez étonnamment, c'est la carte au fond de là où il y avait les plus fortes proportions d'agriculteurs. Dans les années 50 et 60.
C'est un hasard géographique ?
Non, je pense que c'est une carte, et on va rejoindre les questions d'optimisme, c'est une carte où c'est encore dans la mémoire des électeurs qu'ils ont progressé, qu'ils sont sortis souvent, si on voit l'Ouest, d'une situation quand même assez misérable. Et ils ont encore le sentiment de ça parce qu'ils ont des points de repère dans leur mémoire proche. Alors que dans des régions de l'Est ou dans des régions du Midi, cette modernisation est beaucoup plus ancienne.
Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie.
Voilà, moi j'habite un village qui était autrefois un petit village agricole au nord de Marseille, à 20 km de Marseille, où Marine Le Pen a obtenu 43,94% de voix au présidentiel. Ce qui veut dire qu'au second tour, elle sera sans doute majoritaire. Et qu'aux prochaines municipales, on risque d'avoir une municipalité Front National, alors qu'actuellement, c'est une municipalité socialiste. Alors, c'est un village qui s'est peuplé, actuellement, il fait 8000 habitants, il s'est peuplé avec beaucoup d'apports des quartiers nord de Marseille, de gens qui fuyaient une certaine promiscuité, bon, c'était leur problème, et qui, actuellement, voient rouge la bave aux lèvres lorsque on leur parle de mixité sociale. Donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir quels sont réellement les mérites de cette mixité sociale lorsque surtout, elle est imposée, elle est contrainte à des gens qui l'ont vécue et qui ne veulent plus en entendre parler.
Merci Agnès pour cette question qui est une question délicate et intéressante. Hervé Le Braz, sur ce que nous racontait Agnès de ce village au nord de Marseille.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est un cas d'école qui a d'ailleurs été assez étudié dans les années récentes. Mais c'est un peu une idée bizarre que les personnes qui, au fond, habitaient des quartiers nord, des quartiers populaires, où elles avaient du mal à vivre, se mettent à voter quand elles ont quitté pour le Front National, quand elles l'ont quitté et ne votaient pas pour le Front National quand elles y étaient. Là, il y a pour moi un paradoxe et qui montre qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes. Cette histoire de mixité sociale, c'est un véritable problème, mais on peut dire que et la politique urbaine le reconnaît, ça n'a pas été un grand succès, la mixité sociale. Il y a des efforts qui ont été faits dans l'habitat social, mais en dehors de cela, il y a quand même une assez grande ségrégation. D'ailleurs, comme exemple, on cite souvent, on dit, voilà, c'est des quartiers où il y a beaucoup d'immigrés, mais on oublie que là où il y a le moins de mixité sociale, c'est parfois dans des villes comme Neuilly, où là, vous avez plus de mal à trouver des pauvres.
Une dernière question, Hervé Le Braz, sur la carte du Front National en elle-même. Comment distinguer ce qu'on appelle le Front National du Nord et celui du Sud, qui est aussi un clivage idéologique et politique? D'un point de vue géographique, vous diriez quoi?
D'un point de vue géographique, les deux sont les mêmes, les deux votent à peu près au même niveau, mais vraisemblablement, les origines sont différentes parce que, au fond, le Front National du Nord a quand même une base beaucoup plus ouvrière. L'industrie était peu répandue au Sud. Ceci dit, il y a des points communs. Il ne faut pas oublier que toute la partie, alors cette fois-ci le chapeau nord, disons la Picardie et l'ancienne, enfin ce qu'on appelle les Hauts-de-France maintenant, et toute la bordure méditerranéenne avait un très fort vote communiste. Donc il y a eu progressivement aussi un reversement. Au début, ce n'était pas le cas, mais progressivement, c'est devenu. Donc il y a une grande diversité aussi dans les origines du Front National. Inversement, prenez l'Alsace, il n'y a jamais eu de vote communiste. Vous avez eu, dès le début, un fort front national. Donc il faut effectivement regarder de près, et même on l'a dit, dans la composition du front des électeurs, on trouve bien sûr peu de cadres supérieurs, mais on trouve une proportion non négligeable de classe moyenne.
Un mot, Jean-François Dorido? Non, c'est parti, de toute façon, c'est l'heure de conclure. Merci Hervé Le Braz, démographe, directeur d'études à l'EHESS, Jean-François Dorido, directeur général d'Ipsos Public Affairs. Cette enquête donc que vous avez publiée, la sociologie des électorats et les profils des abstentionnistes du premier tour de la présidentielle. 18h55 et 15 secondes, l'édito.
France Inter. Le 18-20, Un jour dans le monde.
Signé ce soir Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez Vincent ce soir en Australie où Marine Le Pen a fait une émule.
Oui Nicolas, elle est aussi rousse que Marine Le Pen est blonde. Elle s'appelle Pauline Hanson. Elle est chef du parti d'extrême droite One Nation, une nation, et elle incarne la version australienne de cette montée des populismes que l'on observe dans tant de nos démocraties occidentales. Alors l'Australie peut paraître un petit peu loin de l'Europe, mais cette ancienne vendeuse de fish and chips se joue manifestement les frontières pour observer, pour copier même la présidente du Front National. Interrogée par notre correspondante en Australie, Caroline Taïx, un politologue tout à fait sérieux, affirme ainsi que Pauline Hanson a deux modèles, le néerlandais Geert Wilders, qui symbolise l'extrême droite la plus xénophobe en Europe, et puis la française Marine Le Pen. Pauline Hanson est donc à la fois protectionniste, violemment contre l'islam, contre l'immigration, contre la société multiculturelle. Après un moment de gloire éphémère dans les années 90, Pauline Hanson avait été jugée infréquentable, elle avait quasiment disparu de la scène politique. Hanson était même devenu un sujet de moquerie, de ridicule, après sa participation à la célèbre émission de télé-réalité Danse avec les stars. Seulement voilà, 15 ans plus tard, la chef de One Nation prend à nouveau la lumière, elle surfe comme jamais sur l'air du temps, elle s'installe même solidement sur l'échiquier politique australien.
Au point, Vincent, de devenir soudain plus fréquentable.
Eh bien oui, on le sait, nos vieilles démocraties sont fragiles, alors pour tenter de sauver sa coalition, le Parti libéral a brisé un tabou politique. Il a conclu un accord électoral avec One Nation en Australie-Occidentale et il a ainsi dédiabolisé l'extrême droite. Alors certes, cette coalition n'a pas fait long feu, mais Pauline Hanson est en train de réussir à installer One Nation comme une force incontournable et cette force qui tire déjà vers la droite dure les deux partis conservateurs et libéral. Alors ce succès de l'extrême droite en Australie pose de multiples questions. En effet, les explications traditionnelles sur la montée des mouvements populistes ne tiennent pas dans le cas australien. Pas de cause sociale sérieuse, ici le chômage est au plus bas et depuis longtemps, l'Australie a connu 25 ans de croissance ininterrompue, la 12e puissance mondiale enregistre même les meilleures performances des pays développés, pas non plus de cause sérieuse liée à l'immigration. En Australie, la population est extrêmement homogène, l'Australie est même connue comme l'un des pays ayant la politique la plus dure au monde à l'égard des clandestins, elle est même régulièrement dénoncée par les ONG et les organisations internationales.
Mais alors comment expliquer du coup le succès de l'extrême droite là-bas, Vincent?
Ah, je serais curieux d'entendre Monsieur Lebras, mais il y a plusieurs pistes, Nicolas. Les politologues s'inquiètent d'abord de l'épuisement, de l'usure de nos systèmes démocratiques, plus particulièrement des partis traditionnels. Alors, ce n'est pas nouveau, mais la crise de la représentation s'aggrave partout et dans plusieurs pays, comme l'Australie, on peut aujourd'hui gagner un scrutin avec seulement 20% des voix. D'autres évoquent un retour de bâton de la mondialisation et de ses crises qui auraient percuté les identités, les représentations. Ils constatent le succès fulgurant du slogan « Fermer les frontières » et d'un appel à un protectionnisme économique, social et plus encore culturel dans le cas de l'Australie. C'est la puissance de la Chine toute proche qui fait peur, bien sûr. Il y a une troisième piste qui, elle, nous ramène à l'économie ou plutôt au travail. Nous vivons, cela ne fait pas de doute, une série de mutations très profondes du travail, une grande transformation dont le rythme est si rapide qu'il nous déboussole, déstabilise, malmène une partie importante de la population. Vous voyez que cette crise-là va bien au-delà de l'Australie et qu'elle concerne toutes les grandes démocraties occidentales, Nicolas.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, la suite de notre édition spéciale du Téléphone Sonne. On va continuer à analyser les effets du premier tour de la présidentielle sur le paysage politique français. Ce soir, la gauche, les gauches en France. Depuis dimanche, elles sont fragmentées entre une France insoumise puissante, un PS historiquement faible et de nombreux électeurs qui sont allés en 2017 voter Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, quittant un vote plus habituel en faveur du Parti Socialiste. Alors ce paysage est-il conjoncturel ou appelé à perdurer? On en parle avec vous, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
France Inter, le 18-20.
Avec la suite de notre édition spéciale consacrée aux enseignements du premier tour de la présidentielle, ce soir, le paysage politique à gauche, il sort profondément transformé avec une France insoumise très puissante, un parti socialiste balkanisé, des électeurs de gauche ayant voté Emmanuel Macron, des Verts qui n'avaient pas de candidat mais sortent lessivés de leur accord avec les socialistes. Voilà où l'on en est. Ce paysage est-il une préfiguration de l'avenir ou un accident? La première étape d'une mutation ou une photographie démographie à l'instant T que les législatives peuvent venir bouleverser. On en débat ce soir. Bienvenue dans le Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
Et vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter, avec le mot-clé Telson. Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir Monsieur Demorand.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Alors en fait, moi je voulais parler de mon inquiétude en tant qu'électrice de gauche. Il y a 5 ans, j'ai voté Montebourg puis Aubry au primaire. Là, cette année, j'ai voté Montebourg puis Hamon. J'ai l'impression que les électeurs comme moi sont un peu le seul noyau dur restant aujourd'hui du PS. Et pourtant, on a l'impression qu'avec les législatives qui arrivent et la fuite de bon nombre de membres du Parti Socialiste auprès d'Emmanuel Macron, qu'on ne sera pas représenté pour ces législatives. Et moi, j'ai une grande inquiétude vis-à-vis de ça pour les 5 ans à venir. Si on n'a pas ses représentants à l'Assemblée.
Merci Julie pour cette question avec laquelle on va donc démarrer le téléphone sonne pour vous répondre et dialoguer avec vous, ami auditeur. Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, auteur de La gauche zombie chez Les Mieux Éditions, c'est le titre de votre dernier livre. Claude Askolovitch, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique, chroniqueur sur Inter dans la matinale du week-end, auteur de Comment se dire adieu chez Lattès. Arnaud Leparmentier, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Éditorialiste au quotidien Le Monde, qui veut répondre à Julie sur sa crainte de voir la gauche pour laquelle elle a voté, totalement disparaître aux législatives. Laurent Bouvet.
Oui, la question que pose Julie, c'est la question des législatives qui vont avoir lieu au mois de juin et qui s'annoncent très très difficiles, je dirais, pour tout le monde, y compris et certainement pour le président de celui qui normalement devrait être élu, qui est Emmanuel Macron, En Marche. Ça sera très difficile pour le Parti Socialiste et ça sera pas évident pour les Républicains. Le Front National devrait pas non plus avoir un nombre de députés extraordinaire. Donc tout le monde, et la France Insoumise non plus, il y aura 5 blocs. Hein, donc tout le monde va être dans la difficulté. Pour le Parti Socialiste, pour répondre directement, la difficulté, ça va être, est-ce qu'il y aura un ou plusieurs partis socialistes? C'est-à-dire que l'étiquette socialiste va pouvoir servir à plusieurs propos. Deux, par exemple. Un qui sera plutôt, si on poursuit la ligne de ce qui a été décidé avec la primaire et la candidature de Benoît Hamon, un rapprochement avec les écologistes et quelque chose qui se situe vers l'aile gauche plutôt du Parti Socialiste. Et puis l'autre, certainement, par exemple, peut-être derrière un Manuel Valls, qui en tout cas en a l'intention, un regroupement de l'aile sociale libérale qui serait plutôt rallié à la majorité du président Emmanuel Macron. Donc ça fait déjà au moins deux partis socialistes. Peut-être qu'il y en aurait même un troisième, voilà.
Claude Askolovitch.
Oui, ça peut consoler Julie ou achever de la déprimer. Ça fait longtemps qu'elle est plus représentée, Julie. Pardonnez-moi, vous n'étiez pas représentée. Vous avez eu un gouvernement socialiste qui, par exemple, s'est opposé à la politique de Madame Merkel d'ouverture, d'accueil des migrants. Quand il y a eu les vagues de migration en Europe, c'est un gouvernement socialiste qui faisait ça. Vous avez eu, vous parliez d'Arnaud Montebourg, un homme, Arnaud Montebourg, qui avait promis aux ouvriers de la sidérurgie de chez Florange qu'il serait nationalisé, qu'il leur apportait des croissants pour les caméras de télévision, qui finalement a perdu, ils n'ont pas été nationalisés. Vous avez eu, on va pas revenir, mais je suis persuadé qu'en votre fort intérieur, Julie, vous regardiez l'expérience hollandaise, hollando-valsienne, peu importe, socialiste se réaliser, vous disiez, mais ce n'est pas moi. Donc au fond, ce qui est arrivé là, la mise en minorité absolue de Benoît Hamon, l'explosion, le fait qu'un homme qui n'est pas socialiste, et on peut très bien ne pas être socialiste extrêmement avenant, c'est le cas d'Emmanuel Macron, prêt à l'emportera peut-être, ce n'est que la conséquence. Ce pourquoi, Julie, s'est battue, peut-être.
Elle est encore en ligne. On va lui demander si elle est toujours intacte après ces deux réponses.
Ce pourquoi vous avez espéré ce qui s'est appelé pendant des années le socialisme, c'est-à-dire une volonté de transformer la société et une volonté d'être au plus près des plus faibles, y compris les migrants. Eh bien, cela avait disparu. Donc, pardonnez-moi, et on n'est pas loin. Julie, vous et moi, pas forcément dans des votes, peu importe, mais en sensibilité, ça n'existe plus. Va falloir se réinventer. Le socialisme était une discipline intellectuelle, philosophique, morale, avant d'être une expérience de pouvoir et de notables qui vont à l'assiette au beurre. Résignez-vous, mais il nous reste encore, il vous reste peut-être la pensée.
Ça va, Julie ?
Oui, ça va très bien, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que évidemment que les gens qui avaient voté comme moi ces dernières années ne se sentaient pas du tout représentés par ce gouvernement Hollande. D'ailleurs, souvent, aux dernières élections, une grande partie a voté Hollande un peu à contre-cœur en sentant un petit peu arriver tout ça. Effectivement, c'est pas forcément autour du Parti socialiste qu'il faut reconduire ça, mais aujourd'hui, quand on voit que Benoît Hamon a été élu aux primaires avec une très large majorité, Manuel Valls a été complètement désavoué, on est en droit de se dire qu'on est quand même si ce n'est pas autour du Parti socialiste, mais peut-être effectivement avec les Verts, en droit de demander une recomposition qui ne serait pas forcément autour du PS et qu'on souhaite absolument pour que ces idées qui sont encore présentes, même si elles ne sont pas suffisamment représentées, parce que ça a été le choix de François Hollande, de Manuel Valls, de M. Cambadélis, c'est quand même des idées qui sont au fondement du Parti Socialiste, qui peuvent se transporter ailleurs, mais qui existent fondamentalement en France, et on risque de se sentir complètement perdu, et ça risque de créer, moi qui ne suis pas du tout abstentionniste, des abstentions massives aux législatives, et peut-être beaucoup plus de sièges pour le Front National, beaucoup plus de sièges pour les partis extrêmes de manière générale, parce que M. Macron, qui a gagné... certainement les présidentielles, n'aura pas non plus énormément de sièges derrière.
Merci Julie, la parole à Arnaud Le Parmentier.
Moi je vais, excusez-moi de vous taquiner aussi, mais pas de la même manière que Claude Ascolovitch. Vous dites, est-ce que la gauche nous a trahis ? Je crois qu'en fait vous n'êtes plus qu'un petit bout de la gauche. Quel score a fait Benoît Hamon, votre candidat ? Votre candidat, il a fait 7%. Donc en fait, la question qui est pour les semaines prochaines, c'est de savoir comment le PS se comporte. On a l'impression d'avoir un raisonnement, la vraie gauche, c'est nous. Vous êtes la vraie gauche à 7%. Et on va avoir, en fait, en réalité, un grand débat. Le PS n'est plus comme dans les années 80, années 70, où il était à gauche, hégémonique sur le personnel, sur les idées, sur le projet. Le PS n'est plus porteur de cette majorité. Il s'est fait déborder par deux côtés, par le mélenchonisme qui est le retour à un socialisme révolutionnaire, je suis pas spécialiste mais c'est un peu comme ça que je le vois, et puis Macron, la vraie question c'est où est la gauche ? Est-ce que Macron est de gauche ? Est-ce que Emmanuel Valls est de gauche ? Ça fait 4 ans qu'on entend un procès contre Valls, Hollande, Macron, vous trahissez, vous n'êtes pas de gauche,
vous êtes de droite. Vous qui êtes de droite, comment vous répondez à ces questions ? Est-ce que Emmanuel Macron est de gauche, oui ou non ?
Il suffit de lire le projet d'Emmanuel Macron pour voir que le projet d'Emmanuel Macron, c'est la troisième voie, Blairich, Schröder, suite de Hollande, il est de gauche. Il suffit de voir son petit bouclette de 32 pages. Emmanuel Macron n'aborde l'équilibre, par exemple, budgétaire qu'à la 30e page. Sur 32. Il n'assume même pas qu'il supprime 120 000 postes de fonctionnaires. Il veut mettre en France la flexisécurité, c'est-à-dire des garanties sociales en plus, l'école pour tout le monde. C'est un programme de gauche. Mais il y a un procès.
Arnaud Le Parmentier, pardon, mais en toute amitié. L'école
il est
pour
en
tout
train
monde,
de monter en température.
Non, c'est pas ça, mais l'école pour tout le monde. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais vous m'arrêtez. C'était pas un projet républicain qui transcendait la droite et la gauche. L'homme qui a inventé l'école pour tout le monde était un grand colonisateur.
Ça marche pas. Ça marche pas.
Pardon,
ça n'a pas
marché. J'ai dit une bêtise.
Vous avez raison. Non, mais voilà. Jules Ferry. Ok. Non. C'est pas ça.
La gauche va être contente d'être la dernière à vouloir l'école pour tout le monde.
C'est quoi, Arnaud ?
Pardon.
Vous avez dit je voulais pas dire ça, donc vous vouliez dire quoi ?
Non, ce que je veux dire, c'est que quand le projet d'Emmanuel Macron, c'est de lutter contre les inégalités, notamment à l'école. Il y a un problème d'accès majeur à l'école, c'est de gauche, on n'arrive pas à le résoudre, donc il propose des nouvelles choses, des doublements des classes pour CE1, CE2, CP, il veut remettre le latin, le grec et les classes bilingues, il veut redonner leur chance aux plus démunis. Donc moi je veux bien qu'on dise que Macron est de droite. Lisez simplement le programme de François Fillon, qui d'ailleurs a subi un désaveu flagrant. La question, c'est important parce que où est la masse de gauche ? Moi, je pense que la gauche doit réfléchir à où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Et c'est pas 7% qui sont la gauche.
Aurore, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons, Aurore.
Il a déjà merci de prendre mon interrogation et mes doutes. Je témoigne déjà parce que j'ai voté pour Monsieur Hamon lors de la primaire socialiste. Enfin, je ne sais plus comment ils l'ont nommé, mais j'ai été plutôt contente qu'il sorte comme étant le candidat du Parti socialiste parce que je trouvais qu'il insufflait quelque chose de nouveau et qu'il redonnait au Parti socialiste, une vraie vocation de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire socialiste et humaniste, avec un projet de société qui me semble intéressant. Et j'ai été extrêmement déçue et avoir même un sentiment de trahison de voir que les membres du PS se sont tournés vers M. Macron et l'ont soutenu, sans pour autant quitter le Parti Socialiste. Donc ça, c'est vraiment un positionnement que j'ai eu du mal à comprendre. Et de sentir qu'ils abandonnaient leur candidat alors qu'ils se sont engagés moralement, intellectuellement. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie trahison par rapport aux gens qui se sont mobilisés pour voter lors de ces primaires. Mmh. Et je pense qu'ils sont effectivement responsables du résultat de M. Hamon et qu'ils n'ont pas eu, je dirais, de courage politique de le soutenir. Et moi, je me suis tournée pour les présidentielles vers M. Mélenchon parce que finalement, pour moi, c'est celui qui représentait les idées qui sont pour moi des idées réellement socialistes, humanistes et non pas révolutionnaires, mais évolutionnaires. Mmh. Et donc c'est vrai que là je me sens un peu démunie, déjà par rapport au second tour, je ne sais vraiment pas pour qui, enfin, je ne sais pas si je vais voter Macron, si je vais m'abstenir en fait réellement, parce que je ne me sens pas représentée, et pour les législatives, je suis pour le coup vraiment déboussolée.
Aurore, restez en ligne, on va faire circuler la parole et dialoguer avec vous. Laurent Bouvet voulait dire un mot, et Claude Ascolovitch après.
Il faut faire attention à ça, parce que la défaite cuisante, historique, en termes de score de Benoît Hamon pour le Parti Socialiste, on n'avait pas connu ça depuis 1969, et le score de Gaston Defferre, c'est une coproduction, c'est pas parce que simplement il avait l'étiquette socialiste, que cette étiquette aurait été pervertie par 5 ans de gouvernement Hollande, etc. Il y a certainement, évidemment, cette explication. Elle est juste, elle est valable. Mais Benoît Hamon s'en est dissocié, il a été en rupture, il a annoncé, il était un frondeur depuis 2014, donc il est aussi responsable de son échec. C'est-à-dire que quand on joue un match, si on prend une métaphore sportive, c'est pas parce que on a le soleil dans les yeux, le terrain est lourd, il n'y a pas d'eau chaude dans les douches, comme disait dans Astérix, les sangliers ont mangé des cochonneries. Bon, je veux dire, il y a un moment donné, et il l'a assumé d'ailleurs, Benoît Hamon, sa défaite, il a dit qu'il était responsable. Il a fait une mauvaise campagne. Pourquoi est-ce qu'il a fait une mauvaise campagne? Pas parce qu'il avait le plus formidable projet, la plus formidable équipe de chercheurs, etc. C'était la meilleure campagne, le meilleur candidat, et tous ceux qui ont voté pour lui en étaient convaincus, mais c'est pas le sujet. Il a fait une mauvaise campagne stratégiquement. Il est allé à gauche. Il est issu de l'aile gauche du parti des frondeurs. Donc il a pas pu réunir sa famille. S'il y a des socialistes qui l'ont quitté, c'est parce qu'il ne se retrouvait pas, parce qu'il n'a pas su les associer, parce qu'il n'a pas été assez habile pour le faire. Donc, il faut faire attention aussi. Quand on finit à moins de 7% une élection présidentielle, on est dans la politique. La politique, c'est aristotélicien. C'est un rapport au réel. C'est pas platonicien, c'est pas un rapport à la vérité. C'est un rapport au réel. La réalité, c'est le chiffre de Hamon à la fin de cette campagne.
Claude.
Donc, elle n'a pas été bonne puisqu'elle a abouti à ce chiffre.
Claude Ascolovitch.
Mais le socialisme, une question de principe, ça démarre à la bibliothèque de Normale Sup avec Lucien Herr et ça s'accomplit quand justement Jaurès n'est pas dans le réel. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un officier Dreyfus accusé de trahison? Non, on est dans le principe,
non,
et on le défend. Pardon,
non,
si, à un moment donné, et je pense que les socialistes gagneront à ne plus avoir d'existence matérielle qui les envahit et à repenser. Ça ne veut pas dire que Macron n'est pas partiellement de gauche, comme le dit Arnaud Le Parmentier. Ça ne veut pas dire que des espérances cesseront. Ça veut dire qu'à un moment donné,
Lucien Herr avec Benoît Hamon.
Ça veut dire non, je ne parlais pas de Benoît Hamon. Benoît Hamon n'avait qu'un problème, c'est qu'il ne servait à rien politiquement. Si je veux de la gauche traditionnelle, lyrique, républicaine, sourcée aux révolutions françaises, quelles que soient les qualités et les défauts de Mélenchon, j'avais Mélenchon. Si je voulais effectivement un mouvement qui accompagnerait l'entrée de la France dans la modernité, elle finit pas d'entrer dans la modernité, et dans l'Europe et dans la mondialisation, accompagne bienveillance et d'égalité des chances, Arnaud Le Parmentier a très bien décrit, c'était Emmanuel Macron. Il n'y avait pas d'utilité pour Hamon. Maintenant, je veux revenir sur une chose, et une seule qu'a dit Aurore tout à l'heure. Elle envisage, vous envisagez Aurore, de ne pas voter.
Énormément d'auditeurs de France Inter nous disent ça ce soir et hier soir déjà au Standard.
Alors, premièrement, vous êtes libre. Donc, ne prenez pas ce que je vais vous dire pour une leçon, un surplomb, etc. Vous êtes totalement libre. Deuxièmement, il y a un bug. On vit des années, on a vécu sous François Hollande des années de décomposition, la fin de la destruction de ce qu'était le socialisme, de ce qu'était la gauche, et tout ceci se réinventera. Cette campagne présidentielle, premier tour, était une campagne de décomposition, espérons de recomposition. Dans la décomposition, il y a le fait qu'un homme comme Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été structuré par son trotskisme, puis par son socialisme, puis par son engagement actuel, d'une manière très simple, quand il y a l'extrême droite, on dit non. Le seul discours que pouvait porter Jean-Luc Mélenchon, s'il était fidèle à lui-même, et encore une fois, il est libre d'hésiter, c'était Emmanuel Macron, s'il est président, je serai en face de lui. Je ne lâcherai pas. Il ne fera pas ses réformes libérales. Mais en attendant, le premier principe, et le vieux Trotsky l'avait compris, c'est on fait barrage à l'extrême droite. Ce qui m'intéresse, c'est que cette spontanéité-là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été capable de l'avoir. Ce qui m'intéresse, c'est que vous, Aurore, qui avez voté pour Hamon aux primaires, puis pour Mélenchon, ne l'avez pas. L'idée même qu'il y a des combats principaux, et tout le reste est discutable, cette idée-là a disparu, notamment dans cette gauche blessée qui accompagnait Mélenchon.
On va entendre d'autres auditeurs qui sont sur la même position qu'Aurore. Arnaud Le Parmentier.
Non mais la question sur le vote d'Emmanuel Macron, je trouve qu'on a quand même un... J'ai donné l'exemple allemand en Allemagne, mais c'est toujours... Il y a des partis fréquentables et des partis non fréquentables. Les gens avec lesquels on peut s'allier parce qu'on est sur le même champ républicain et ceux avec qui on peut pas s'allier. Et je pense que en France, entre la droite républicaine et la gauche républicaine, il y a des anathèmes, des mépris, des insultes qui font qu'on crée des ruptures qui, honnêtement, pour des gens extérieurs, ne vont pas dans le bon sens. Quand on voit la manière dont Emmanuel Macron est traité de banquier, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec le projet d'Emmanuel Macron, qu'on soit pas d'accord avec le troisième voie, mais qu'on en vienne à avoir une, à éprouver une telle détestation qu'on se dit je ne vais pas voter, c'est-à-dire grosso modo ne pas voter, c'est rendre possible ou ne pas faire tout ce qui est pour laisser passer un parti dont on juge qu'il n'est pas républicain, qui est l'extrême droite. C'est très surprenant et je pense que c'est malsain. On a vu aussi la même chose hein, entre le centre droit et le centre gauche ne peut pas s'allier quand il y a François Bayrou en 2012. Ça montre que notre pays est malade de ce clivage gauche-droite et je crains, je ne dis pas que d'ailleurs que la droite, une énorme partie de la droite aurait eu le même problème s'il avait fallu voter pour Mélenchon, pour Benoît Hamon ou pour Macron. On le voit aussi.
C'est pas tant le clivage gauche-droite pardon que que la disparition de la gauche au gouvernement qui a rendu une partie de l'électorat de gauche totalement enragé, pardon c'est pas méchant comme terme dans ma bouche, et en désarroi. Ce qu'on entend là avec Aurore, ce qu'on entend avec Mélenchon, on peut entendre à gauche aujourd'hui parler du fascisme des marchés. Mon Dieu, le fascisme des marchés, on est ailleurs, on est hors la réalité, mais c'est parce qu'on a vécu à gauche 5 années traumatisantes. Mmh.
Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Ben, merci à vous. Alors... je vais intervenir en expliquant pourquoi je ne vais pas aller voter. J'espère que je ne vais pas recevoir des pierres de la part de vos intervenants, parce qu'apparemment, je vais être en dehors du consensus.
Je suis votre bouclier, Patrick. C'est moi qui les ramasserai, les pierres.
En plus, les pierres passent très mal la modulation de fréquence.
S'il vous plaît. Patrick, on vous écoute.
Alors, une première observation. Mélenchon est régulièrement accusé, l'a été, parfois avec raison d'être personnel, égocentrique, de dire au jeu. Là, il consulte démocratiquement les 464 000 membres de la France Insoumise, et c'est tout à fait normal. Donc là aussi, la critique qui lui est faite, à mon avis, elle n'est pas honnête. Ensuite, je vous explique, je ne voterai pas, donc bien sûr Marine Le Pen, il est hors de question, mais je ne voterai pas non plus Emmanuel Macron, car je ne veux pas lui donner de la légitimité, parce que aussitôt qu'il sera élu, ce qu'il a annoncé, il va mettre... son programme en œuvre, notamment par ordonnance, et il va imposer aux salariés, à la population, des mesures qui sont antisociales. Et moi, je ne veux pas, donc, qui me suis battu contre la loi El Khomri 1, voter pour quelqu'un qui va mettre en place une loi El Khomri 2. Ensuite, moi, je laisse derrière Emmanuel Macron le soutenir, les fraudeurs nationaux comme Fillon, européens comme Juncker le soutenir, avec, alors, pardon, tous les banquiers, moi je suis un ancien employé de banque, je peux en parler, je sais ce que c'est, je sais comment fonctionne ce monde-là, j'étais membre de conseil d'administration, les critiques qui sont adressées aux banques, ce ne sont pas des critiques sociales chauvines ou complotistes, ce sont des critiques qui reposent sur le fonctionnement des banques, on l'a vu avec l'évasion fiscale, les multiples procès que les banques, dont les banques font l'objet, donc voilà.
Mais ensuite, vous dites donc, Patrick, vous dites ce second tour-là, c'est pas pour moi. C'est impossible, impossible.
On nous a dit que les médias ont prévu de façon très juste à quelques chouilles après donc les résultats du premier tour. Là, Macron va gagner. Bon, en gros, ce sera du 60-40, on nous annonce. Donc à partir de là, les médias ont essayé de nous influencer de toutes les façons par rapport à ça. Et moi, je trouve tout assez scandaleux et critiquable le fait qu'on culpabilise des gens comme moi qui vont voter blanc ou qui ne vont pas aller voter, alors que c'est un choix politique. C'est un choix politique qui est mûrement réfléchi. Bon, et en plus, imaginons que même qu'on aille voter tous ensemble et que Marine Le Pen soit élue. qui c'est qui va aller dans la rue? Moi, je suis allé dans la rue à plusieurs reprises. J'ai dû faire 15 journées de grève l'année passée pour me battre contre la loi travail. Tous ceux qui aujourd'hui appellent à voter Emmanuel Macron, combien de journées de grève ils ont fait dans leur vie? Est-ce qu'on les a vus descendre dans la rue pour se battre quand il y avait des peuples qui étaient assassinés? Est-ce qu'ils se sont battus pour défendre la Grèce? Macron, il n'a rien dit par rapport à la Grèce. La Grèce, petite parenthèse, aujourd'hui, c'est un dossier que je suis de très près, les mères de famille qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants les placent à l'assistance publique. Mmh. C'est cette logique-là, cette logique libérale. Moi, je ne suis pas un anti-européen, je suis un internationaliste.
Bien compris, Patrick. Restez en ligne, on fait tourner la parole. Laurent Bouvet, pour commencer.
Ce qui est illustré par cette difficulté est tout à fait respectable du non-choix d'un certain nombre d'électeurs, notamment qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et d'autres. C'est simplement que leur candidat était battu. On parlait de Benoît Hamon tout à l'heure avec son score. Jean-Luc Mélenchon a fait un score bien supérieur, en siphonnant d'ailleurs une partie des voix socialistes. Mais il a été battu. C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui font pas des scores extraordinaires, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un second tour avec deux candidats. Qu'on veuille pas choisir, c'est très bien. Simplement, avoir protesté contre la loi El Khomri, être contre le libéralisme, ne pas apprécier les politiques, la contrainte européenne sur l'austérité, etc., c'est bien. Mais si les Français choisissent la protestation version Marine Le Pen d'un côté et choisissent de rester dans le bloc libéral central plutôt du côté libéral progressiste avec Emmanuel Macron que libéral conservateur avec Fillon, c'est qu'il y a une volonté, une expression d'une volonté qui est une volonté qu'on peut décomposer, positive, par défaut, vote utile, peu importe, chaque voix vaut une autre voix
mais là,
en démocratie.
Sans moi.
Oui, c'est sans moi, mais simplement
sans moi, d'accord,
sans moi
très bien,
parce qu'on est battu, mais ça veut dire quelque chose sur la démocratie, parce qu'on est au-delà de simplement la contestation de l'orientation des politiques publiques. Et là, je rejoins ce qu'a dit Claude Ascolovitch tout à l'heure. On est sur la démocratie. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui dépasse largement la situation française, qui est l'enjeu international de ce qu'on appelle une évolution vers la démocratie illibérale. On parle aussi de démocrature, c'est-à-dire on garde un système démocratique. On peut parler d'Erdogan, on peut parler de Poutine, on peut parler de Trump d'une certaine manière dans un autre système. Ça touche différents systèmes, différents types de démocratie, plus ou moins avancés, d'état de droit, de droit-liberté. Et on est dans quelque chose qui est, au nom de la contestation du libéralisme, de la politique économique, ce qui est un enjeu important, on va jusqu'à contester la forme libérale, la démocratie représentative et ses effets. Donc on conteste le cadre dans lequel le débat sur la politique économique peut avoir lieu parce qu'on a été battu dans ce cadre, parce qu'on n'a pas pu y arriver avec la loi El Khomri, parce qu'on n'a pas pu y arriver à l'élection présidentielle. Et demain, troisième tour social, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout cela, ça présente quand même une difficulté pour des gens qui se disent de gauche et qui veulent garder quand même un cadre dans lequel ils pourront s'exprimer. Parce que le jour où on leur interdira de s'exprimer parce que là, le pouvoir n'est pas d'accord avec eux, là, peut-être, il y aura une différence de nature qu'ils se mettront à comprendre, qui n'est pas simplement une différence d'orientation politique tout à fait respectable et tout à fait normale en démocratie, dans un débat démocratique.
Claude Ascolovitch.
Alors, encore une fois, pas de jugement, pas d'administration, mais constatation d'une tendance lourde. Ça fait longtemps, Lionel Jospin perd le premier tour d'élection présidentielle en 2002. Il y avait dans le peuple de gauche des gens, dans les réseaux attaques, de ce qu'on appelait les altermondialistes, qui considéraient au fond qu'il n'y avait aucune raison d'aller se déplacer pour lui. À l'époque, c'était en face de Chirac, on connaît la suite. Plus récemment, M. Trump a été élu aux États-Unis parce qu'une bonne part de l'électorat de gauche, ouvrier, populaire, ne se sentait aucune obligation d'aller aider Madame Clinton, représentante de la grande bourgeoisie éclairée, liée à Wall Street et soutenue par les artistes vive Beyoncé, à l'emporter. Ça ne concernait pas. Trump l'emporte parce que des États de la Rust Belt, les États industriels, vont chez lui parce que des gens comme monsieur étaient partis. Là, aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Il était évident depuis toujours, et encore une fois, on a le droit de rompre avec une tradition, qu'un homme de gauche comme monsieur mettait de côté tout le reste et les combats essentiels pour d'abord s'opposer au, je mets les guillemets, fascisme, je ferme les guillemets, Marine Le Pen est beaucoup plus complexe que ça. Cette prévention-là, ce préalable-là a disparu et ça fait des années que ça dure. Alors pourquoi? Ça qui m'intéresse. Quand je m'interroge sur Jean-Luc Mélenchon, je ne lui reproche pas. Je constate, parce que je connais Mélenchon depuis toujours, parce que Mélenchon en 2002 était allé contre Jospin dire « il faut voter Chirac contre Le Pen », il a changé. parce que la décomposition, parce que la trahison, parce que l'idée que Florange a été abandonnée, parce que M. Montebourg, qui, quand il était en campagne joyeusement avant 2002, expliquait à la CGT d'Amiens les Goudieurs que bien sûr il avait les sauver et après les laisser tomber. Parce que tout ce que l'on a connu est l'abandon de fait de toute volonté de transformation sociale, à un moment donné, a libéré des électeurs, peut-être de manière irrationnelle, mais c'est réel et vous l'entendez tous les jours, quand des gens vous interpellent ici à France Inter et ailleurs, à abandonner ce qui était un préalable. On subit les dégâts de ce qu'a été le, ouvrez les guillemets, socialisme, ouvrez les guillemets, de gouvernement. Et ça s'est cristallisé sous Hollande.
Arnaud Leparmentier.
Je vais pas faire du Gérard Grimbert, mais un petit peu, je vais le paraphraser mal. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. Je pense c'est que la gauche...
Grimbert, c'est celui qui pense que... La gauche a toujours eu honte de gouverner.
Voilà, et qu'elle n'a pas abjuré, qu'elle n'a pas abjuré le marxisme. On a ça depuis que la gauche
est fascisée. S'il vous plaît.
Que la gauche n'a pas abjuré le marxisme. On a eu ça avec le virage de la rigueur de 83 avec Mitterrand. On parlait de pause. On a Lionel Jospin qui a essayé de le faire sans le faire et qui a dit mon projet n'est pas socialiste. Oui, à l'économie de marché, non à la société de marché. Ce qui en fait était moderne. On a eu François Hollande qui lui a assumé le virage. En réalité, si on reprend ses discours, il l'a assumé dans le discours, mais pas dans les tripes, de telle sorte que est resté un doute. Les Allemands, les autres pays ont fait ce virage bien avant, parce que notamment ils avaient en face d'eux les communistes et le mur de Berlin. Et le deuxième problème, ou de suprême idéologique, il y a effectivement les résultats français face à la mondialisation. C'est-à-dire un chômage endémique depuis 30 ans, une formation par l'école, on y revient, insuffisante, l'industrie qui ne s'est pas développée, donc un abandon des classes populaires qui est dû ça à la politique qui a été suivie. Alors moi je pense à titre personnel que c'est une politique pavée de bonnes intentions, un enfer pavé de bonnes intentions avec des 35 heures, des statuts, des ceci, des cela. Mais on a un double choc, un choc idéologique et un choc de résultats. Et résultats, maintenant, il y a la moitié des gens qui contestent le système par la gauche et par l'extrême droite.
Alors, par courrier électronique, Marie de Paris vous demande, messieurs, la chose suivante. Le décalage entre les éditorialistes raisonnables appelant à voter Macron, qui sont au micro de France Inter, et les auditeurs révoltés me fait penser au référendum référendum sur la Constitution européenne en 2005. Comment vos invités interprètent-ils ce décalage? On commence avec vous, Laurent Bouvet.
Mais le décalage, il existe toujours.
C'est une très bonne question, entre parenthèses.
C'est une très bonne question dans un contexte qui est à la fois légitimé par ce qui vient d'être dit par Arnaud Leparmentier, par l'abandon dont témoigne une partie de la population. Ça s'est manifesté en 2005 dans le non au traité constitutionnel européen. Ça s'est manifesté depuis. Le score du Front National en est évidemment un exemple. Le score de Jean-Luc Mélenchon, certainement aussi. Notamment sur les catégories populaires et chez les jeunes, parce que Jean-Luc Mélenchon a grappillé des points dans cette campagne chez les jeunes 18-24 ans et chez les catégories populaires. Donc il faut le souligner. Simplement, il y a d'autres considérations et des éléments sur
vous
ce
dites
clivage.
Dites aux gens comment voter, pour résumer la question.
Exactement, sur
mais
ce
vous,
clivage.
Vous le leur dites, est-ce que vous assumez au moins?
Ah non, mais moi, je ne dis pas aux gens comment voter.
Est-ce que le vice prend des précautions en disant attention, je vous engueule pas, je vous dis pas ceci, je vous dis pas cela, mais votez.
Les universitaires. Les universitaires ne sont pas des éditorialistes et moi je ne fais pas d'éditorialiste, je donne ni mon opinion, ni pour qui on doit voter ou pas voter, etc. J'essaye de montrer à peu près les choses telles qu'elles sont, comme dirait l'autre. Voir les choses telles qu'elles sont, comme disait Peggy. Donc, simplement, il y a dans le clivage peuple-élite, dans ce rejet aussi, une réalité qu'il faut prendre en compte. Le populisme, puisque c'est ça dont on peut résumer, c'est pas, et dans ma bouche, ce n'est pas un mot péjoratif. Il y a une partie mal de la démocratie, c'est-à-dire symptôme, qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les électeurs dans cette situation. Et c'est très grave de les laisser dans les mains de partis qui manipulent aussi le peuple, qui s'adressent au peuple et font, sous prétexte d'être de leur côté, du côté du peuple, du côté de ces gens qui protestent, en disant voilà, on va y arriver parce que on va dégager tout le monde, etc. Et là, je vise effectivement aussi bien Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, il faut les écouter. Simplement, le mal de la démocratie, c'est pas seulement le symptôme, c'est aussi le mal, le contraire du bien. C'est-à-dire qu'il y a un danger, je parlais tout à l'heure, je parle pas de fascisme des années 30 ici, pas de mauvaises analogies, mais je parle de démocratie illibérale, c'est une traduction en français d'un mot anglais, c'est-à-dire de la sortie de un ensemble sur lequel on s'accorde.
Oui, et il reste de la démocratie que l'élection. Hein,
et exactement. Et le fait de ne pas de se dire que finalement entre un Macron et une Le Pen, ben on ne choisit pas, fait partie aussi, même si c'est respectable en soi, fait aussi partie de cette idée que finalement la démocratie c'est quelque chose qui ne compte pas tant que ça, ce n'est que l'expression simple de préférence sans prendre en compte le cadre commun.
Claude Askolovitch, sur la comparaison avec 2005 et le référendum sur la Constitution européenne où tout le monde a dit à tout le monde ce qu'il fallait voter et les gens ont voté différemment.
Les gens ont parfaitement raison de voter différemment. Je me sens très peu éditorialiste. Je ne me permettrai jamais de demander à quelqu'un de voter de telle ou telle manière, mais je m'interdirai jamais de constater qu'il y a une rupture et peut-être un retour aux sources. L'idée que la bourgeoisie ne mérite pas qu'on vienne à son secours, fut-elle libérale, quand on est le peuple, quand on est le prolétariat, quand on est la classe ouvrière, quand on est exploité, et je pense que les gens ont été éminemment maltraités, notamment par ces socialistes au pouvoir, qui n'ont plus de socialistes que le nom. Donc je comprends tout cela. Mais l'idée que, même face à l'extrême droite, on ne va pas défendre la bourgeoisie, c'est une vieille idée qui avait été abandonnée et qui revient, on l'entend. Je constate cette différence-là. Je ne m'y inscris pas forcément en tant que citoyen, mais étant aussi journaliste et travaillant aussi pour une station du service public, France Inter, je me dois à un moment donné de me restreindre, parce qu'après tout, les gens, de quelque opinion que ce soit, peuvent m'écouter. Voilà. Mais jamais je ne dirai aux gens, votez. Simplement, à ceux qui disent je ne voterai pas, et les électeurs de Mélenchon qui disent je ne voterai pas, ou Mélenchon, dont j'analyse par ailleurs la position dans Slate, qui dit je ne choisis pas, eh bien je constate qu'ils ont changé, qu'il s'est passé quelque chose. Encore une fois, je lis ce changement à l'abandon, à la décomposition totale de ce qu'a été la gauche sous Hollande. Le référendum de Maastricht, il y avait autre chose. Il y avait
2005,
un agrégat
là, 2005,
de 2005.
En fait. C'est la
il y avait
constitution
de, pas de Maastricht,
européenne.
Pardon, la Constitution européenne. Il y avait un agrégat de refus qui ne communiquait pas entre eux. Il n'y avait pas de lien entre, on va dire, la campagne du non du Front National et les campagnes du non, déjà de Mélenchon, de Fabius, de José Bové et
oui,
d'autres.
Le nom de gauche, comme on disait
nom
à
gauche.
L'époque.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre les électorats frontiste, l'électorat de Mélenchon, pas du tout idéologique, pas du tout chez les leaders, mais générationnellement. La majorité des jeunes électeurs a choisi ou bien le refus mélenchonien, ou bien le refus lepéniste, et regardez les tracts que fait Marine Le Pen pour constater des adéquations d'apparence, mais qui sont plus profondes que ça, la prime au social que j'ai toujours souhaité, à un moment donné, fait oublier autre chose.
Arnaud Le Parmentier.
Non, mais sur le référendum de 2005, il faut voir que le référendum de 2005 n'a pas eu lieu sur la Constitution, mais a eu lieu sur ce qui s'est...
Je ne veux pas rouvrir de vieilles blessures, mais vous voyez l'idée de la question.
Je vois bien l'idée.
C'est qu'on a eu
deux querelles en 2005 qui demeurent aujourd'hui. L'élargissement aux pays de l'Est était en fait un élargissement mondialisant en mettant les salariés en concurrence, alors que jamais jusqu'à présent des salariés n'avaient été mis en concurrence au sein de l'Union européenne. On avait attendu que l'Espagne et le Portugal soient suffisamment développés pour les accueillir et il n'y avait pas eu ce choc de compétitivité par les salaires. Il a lieu aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a eu en 2005 l'adhésion de la Turquie qui a fait chez les citoyens européens un choc identitaire. Au nom de la bien-pensance, on a dit vous êtes obligés d'accepter la Turquie parce qu'il faut accepter un pays musulman et donc on va montrer par l'absurde que nous n'avons pas de racines chrétiennes ou carolingiennes. Donc il y a eu un rejet qui s'est en plus accru avec cette idée de la concurrence libre et non faussée. Mais le plombier Bolkestein, le plombier polonais, tout ça, c'est la concurrence entre salariés d'une Europe devenue hétérogène. Donc il y a des causes qui sont sérieuses. Alors effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec le vote Macron qui est la France ouverte dans l'Europe. Est-ce qu'on aurait voulu que ces pays de l'élargissement n'y soient pas? Est-ce qu'on veut une guerre ou au moins toute cette Europe recréer un Yalta ou un nouveau rideau de fer? On a un grave problème, on a effectivement un vote de classe, c'est très dangereux. La bourgeoisie ou les gens, les gagnants pour Macron et les gens un peu abandonnés qui risquent de voter un peu plus Le Pen et c'est très gênant.
Vote de classe, Claude Askolovitch.
D'apparence de classe, parce que Marine Le Pen comme représentante des classes populaires... Mélenchon, c'était autre chose. Mélenchon incarnait dans son destin, même s'il vit bien Mélenchon, une souffrance populaire. Il la reprenait à son compte. Il parlait du peuple méprisé par les gens « bien », entre guillemets, et il le vivait lui-même. Pour être juste et totalement juste, dans le programme de Macron et dans les aspirations de Macron, qui, quand il était un peu plus jeune, était plus que tenté par Jean-Pierre Chevènement, je ne suis pas totalement persuadé du vote de Macron en 2005 sur le référendum européen.
Il dit qu'il a voté, oui.
Oui, il dit qu'il a voté, oui, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. J'ai dit, je n'en sais rien, mais je ne dirais pas qu'un futur président
possiblement. Ferme la parenthèse, vite, Claude.
Mais Macron plaide aussi pour une régulation au niveau européen. La question d'un président français, quel qu'il soit, est-ce qu'il est capable de déclencher une conflictualité qui, à l'intérieur de l'Europe, permettra à l'Union européenne de redevenir protectrice? Pour l'instant, personne n'y est parvenu. Hein.
Rémi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Désolé pour les 40 minutes d'attente au standard.
Ah, quelle honte, quelle honte.
Je suis navré, allez-y, je vous en prie.
Pas de problème. Oui, donc en fait, passer la déception du faible score de Benoît Hamon, je pense qu'en fait, le résultat de ce premier tour, ça pourrait être une chance pour le Parti Socialiste et la gauche, en fait, de réaligner les électeurs dans ceux des primaires et l'appareil du parti. Puisqu'en fait, je pense que maintenant, le positionnement politique du Parti Socialiste pourrait être beaucoup plus clair suite en fait au départ de tous les opportunistes et ceux que j'appelle les gens de droite honteux comme Valls et Collomb vers En Marche. Puisque quand on soutient des éléments aussi peu à gauche, pro-redistribution et pro-fraternel que donc la suppression de l'ISF ou le chèque blanc au patronat que Macron s'apprête à signer, ce n'est pas vraiment de la gauche. Mmh. Justement, dire que Macron est de gauche, comme vient de le faire Arnaud Leparmentier, en fait, ça me semble justement entraîner une confusion entre la réalité de la droite et de la gauche, qui aussi perturbe les électeurs et les renvoie vers les extrêmes. Donc je pense qu'en fait maintenant donc le PS a toutes les cartes en main pour en fait se rebâtir sur les notions de base de solidarité et de fraternité qui sont son socle idéologique. Et puis pour une petite remarque supplémentaire sur le deuxième tour, donc on a le choix entre Macron et Marine Le Pen. Je ne crois pas que Emmanuel Macron soit allé danser la valse avec des néo-nazis en Autriche. Et de toute façon, ceux qui se disent que... Enfin, il faut bien que tout le monde soit conscient que si Marine Le Pen était élue, eh ben, on aurait le fascisme plus le libéralisme qui est inscrit dans les gènes du FN. Donc opposer l'un et l'autre est à mon avis un non-sens.
Donc vous irez voter, Rémi ?
Oui.
Merci pour votre intervention. Une chance pour le PS, en fait, ce premier tour. Qui veut répondre ? On a très peu de temps, malheureusement.
Une chance pour le PS. Le problème, c'est que le total gauche, si on dit, comme cet auditeur, que Macron n'est pas de gauche, c'est un peu plus de 25%, c'est 26%. Donc, et le PS est à moins de 7%. Donc, reconstruire, oui, simplement, il faut un Mitterrand, comme en 71. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de Mitterrand à gauche. Et Mélenchon ne peut pas être un Mitterrand parce que Mitterrand ne venait pas de la gauche. C'est un élément clé pour comprendre ce qu'a été le parti d'Épinay. Le parti d'Épinay, c'est terminé. On ne va pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui, si les électeurs ne viennent plus voter pour le projet socialiste, ce n'est pas simplement parce que Hollande et Valls ont fait une politique de droite. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas être plus à gauche parce que les gens votent à droite. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un peu simpliste, cette approche.
Allez, merci à tous les trois. Laurent Bouvet, Claude Askolovitch, Arnaud Leparmentier. Énormément d'appels au standard. On va évidemment refaire des téléphones sonnent nombreux pour continuer à vous donner la parole, amis auditeurs d'Inter. 20h.